Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. Politique américaine, le président élu Joe Biden et le président sortant Donald Trump ont tenu lundi des meetings en Géorgie pour inciter les électeurs de l'État à voter massivement aujourd'hui, mardi, lors du second tour de sénatorial qui détermineront le contrôle du Sénat américain lorsque le démocrate succédera aux républicains. Le scrutin oppose respectivement les sénateurs républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue aux démocrates Raphaël Warnock et John Ossoff dans un État où Joe Biden a créé la surprise en novembre en devançant Donald Trump lors de l'élection présidentielle. Joe Biden souhaite que les démocrates remportent les deux sièges au Sénat afin de contrôler les deux chambres du Congrès lorsqu'il sera investi à la Maison-Blanche le 20 janvier, tandis que Donald Trump veut que les républicains restent majoritaire à la Chambre haute pour entraver le programme de son rival. Par ailleurs, le leader de la milice américaine d'extrême droite, Proud Boys, a été arrêté lundi à Washington, 2 jours avant une manifestation contre la certification de l'élection de Joe Biden comme prochain président des États-Unis, selon la police. Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi un reconfinement national en Angleterre pour tenter de contenir l'envolée des contaminations par le COVID-19 qui menace de submerger le système de santé britannique en attendant que la campagne de vaccination atteigne un stade critique. Le premier ministre britannique a précisé que les écoles seraient fermées à partir de ce mardi et que quitter son domicile ne serait autorisé que pour des cas précis tels que se rendre sur son lieu de travail lorsque le télétravail est impossible, effectuer des achats essentiels ou pratiquer de l'exercice physique. L'Iran a repris dans son usine souterraine de Fordo la production de l'uranium enrichi à hauteur de 20%, un niveau bien supérieur au seuil fixé par l'accord de Vienne de 2015, a annoncé lundi son gouvernement. Il s'agit de la dernière violation en date par l'Iran de l'accord international de Vienne dont Téhéran a commencé à s'affranchir en 2019 à la suite du retrait des États-Unis l'année précédente et du rétablissement de sanctions américaines à son encontre. Sur le continent, la branche régionale d'Al-Qaïda au Sahel a revendiqué la mort de 2 soldats français en opération au Mali samedi, a rapporté lundi Site Intel Group, un organisme américain qui suit l'activité de l'extrémisme islamiste. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans avait déjà revendiqué avoir tué la semaine dernière 3 soldats de la force Barkhane déployée au Sahel. Les casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, ont sécurisé lundi une partie de la ville de Bangassou, prise dimanche par les rebelles. Les assaillants demeurent certes présents dans des sections de la ville, mais la MINUSCA note, je cite, « une situation calme mais tendue ». La force de maintien de la paix a également indiqué que des casques bleus supplémentaires sont arrivés en renfort dans cette bourgade à quelques 750 km à l'est de Bangui, la capitale. La Tunisie, présidente actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU, a espéré lundi l'adoption d'une résolution dès que possible pour engager sous l'égide des Nations Unies un déploiement en Libye d'observateurs internationaux du cessez-le-feu observé depuis l'automne. Nous espérons qu'elle sera adoptée dès que possible, car il y a un élan qui reste un peu fragile, a déclaré l'ambassadeur tunisien à l'ONU, Tarek Ladeb, en allusion aux négociations entreprises par les partis sur les plans politiques et militaires. Un jeune internaute algérien, Walid Kishida, c'est son nom, a été condamné lundi à 3 ans de prison ferme pour avoir publié sur Facebook des mèmes moquant les autorités et la religion. L'emprisonnement de Kishida survient dans un climat de répression accrue de la liberté d'expression sur le net en Algérie. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, le président centrafricain sortant, Faustin Archange Touadéra, déclaré réélu à la présidentielle du 27 décembre. Le Niger va porter le deuil durant 3 jours et renforcer la sécurité après la plus meurtrière attaque djihadiste contre des civils au Sahel et crime contre l'humanité en République démocratique du Congo, un ex-chef rebelle mis en examen et incarcéré en France. On revient sur ces nouvelles dans un instant. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021. Nous émettons de Washington. À tout à l'heure, dans quelques instants, donc, pour la suite des informations. La suite de nos informations en ce mardi 5 janvier 2021 en République centrafricaine. Les résultats provisoires des élections du 27 décembre dernier ont été publiés hier après-midi. Le président Faustin Archange Touadéra est réélu au premier tour de la présidentielle avec 53,92% des voix selon l'Autorité nationale des élections. Sur près de 2 millions d'électeurs, seulement un peu plus de 910 000 se sont rendus aux urnes. À Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Sans grande surprise, Faustin Archange Touadéra, arrivé en tête des résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote, a été réélu selon l'Autorité nationale des élections avec 346 000 687 voix, soit 53,92% de suffrages exprimés. Le taux de participation à ces élections fortement perturbé dans certaines régions par les groupes armés est de 76,31% selon l'Autorité nationale des élections. Cris de joie, bruit de klaxons dans certains secteurs de Bangui, une victoire savourée avec une liesse populaire devant le siège du MCU, le parti du président Touadéra. Anissé Georges Doleguélé, le principal challenger de Touadéra, a recueilli 135 081 voix, soit 21,01%. Il est suivi de Martin Ziguélé, 47 942 voix, soit 7,46% de suffrages recueillis. Le dernier mot reviendra à la Cour constitutionnelle qui donnera les résultats définitifs le 19 janvier prochain. Alors que ces résultats provisoires sont connus, le pays est encore plongé dans la psychose. Les rebelles de la coalition des groupes armés menacent toujours de marcher sur Bangui. Leur progression a été stoppée depuis quelques jours à la porte de la capitale par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes et rwandais. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Niger, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours après une attaque qui a fait une centaine de morts le 1er janvier. Elles annoncent aussi le renforcement de la sécurité. Les précisions d'Abdourahman Dia.
Nous avons décrété 3 jours de deuil national. Au niveau sécuritaire, nous allons renforcer le dispositif en augmentant notamment le nombre de soldats sur le terrain, a affirmé le ministre de l'Intérieur Al-Kaché Al-Khada à l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel dirigé par le président Mamadou Issoufou. Le ministre a aussi annoncé la tenue de forums pour apaiser les tensions entre communautés et le don de nourriture aux populations touchées. L'attaque survenue samedi a eu lieu dans la zone dite des trois frontières aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Aucune revendication officielle n'a été émise après cette attaque survenue entre les deux tours de la présidentielle. Dans la même bande frontalière entre le Mali et le Niger, 7 soldats nigériens ont été tués le 21 décembre à 6 jours du premier tour des élections.
En France, Roger Lumbala, un ancien chef rebelle de la République démocratique du Congo, a été mis en examen et incarcéré à Paris. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité commis en 2002. Le point avec Eddy Sangou.
Âgé de 62 ans, Roger Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeait à l'époque les Rassemblements Congolais pour la Démocratie Nationale, RCDN. Ce groupe armé, fondé en 1998, a été accusé dans plusieurs rapports des Nations Unies de viols, d'exécutions sommaires, d'enlèvements, des mutilations et des cannibalismes dans l'Ituri. Monsieur Lumbala avait réfuté ces accusations. Il a finalement été arrêté la semaine dernière dans les cadres d'une enquête préliminaire ouverte à Paris. À l'issue de sa garde à vue, il a été présenté samedi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour complicité des crimes contre l'humanité. Monsieur Lumbala a été placé en détention provisoire. Il s'agit de la première mise en examen sur la base du rapport mapping de l'ONU rendu public en 2010 qui documentait plus de 600 violations des droits de l'homme en RDC. En août, pour les 10 ans de ces rapports, le prix Nobel de la paix, Denise Mukwege, a dénoncé l'impunité et l'absence des prises en compte des recommandations de ces rapports de l'ONU.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Le Sénégal aura besoin de plus de 13 milliards de dollars pour le financement de sa contribution à la lutte mondiale contre le changement climatique. Il reste encore du chemin à faire, selon Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. En effet, seuls 10 projets approuvés par le Fonds vert pour le climat ont obtenu un financement global de 150 millions de dollars pour le moment. Au Maroc, Tanger Med, le premier port à conteneurs d'Afrique et le 20e dans le monde, s'apprête à mettre en service son troisième terminal avec une capacité de 1,5 million de conteneurs pour un quai de 800 mètres selon le quotidien marocain L'Économiste. Avec une capacité de 9 millions de conteneurs, Tanger Med surpasse désormais le port espagnol de Valence. Enfin, bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs, la fondation Tony Elumelu s'est engagée à distribuer 100 millions de dollars pour aider les jeunes entrepreneurs du continent. Le but est de créer au moins 1 million d'emplois sur 10 ans et de générer 10 milliards de revenus pour l'économie africaine. Depuis 2015, déjà 9 000 jeunes entrepreneurs africains en ont bénéficié.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Début ce soir des rencontres retour du deuxième tour préliminaire des matchs interclubs. En Ligue des Champions, l'association sportive V-Club de Kinshasa reçoit les Young Buffaloes de l'Eswatini. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns offrent l'hospitalité aux Botswanais de Swaneng Galaxy. Et puis, à Casablanca, le Raja reçoit Teguff du Sénégal. En Coupe CAF, les Burkinabés de Salitas vont essayer de confirmer leur victoire du match aller face aux Soudanais d'Alamal Atbara, tout comme les Sud-Africains d'Orlando Pirates face aux Angolais de Sagrada. De leur côté, les Nigériens de la Gendarmerie nationale vont essayer de limiter les dégâts à Alger face à la JS Kabylie. Trois jeunes talents maliens au Red Bull Salzbourg, Mamadi Diambou, Nene Bitra Dorgeles et Daouda Guindo, 18 ans chacun, se sont engagés avec le club autrichien jusqu'au 31 mai 2025. Ils arrivent tous en provenance du club malien de Guidar FC. Ils retrouveront sur place leurs compatriotes Mohamed Kamara et Sekou Koïta qui, eux, jouent avec l'équipe première du Red Bull Salzbourg. Coup dur pour Karl Toko Ekambi et l'Olympique Lyonnais. D'après le quotidien L'Équipe, le Camerounais a été contrôlé positif au nouveau coronavirus et sera donc absent mercredi contre le Racing Club de Lens à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Auteur de 15 matchs en Ligue 1 cette saison, Karl Toko Ekambi a marqué 9 buts en championnat avec les Gones. Le syndicat des joueurs uruguayens de football a accusé la fédération anglaise de discrimination pour avoir accusé Edinson Cavani, l'attaquant de Manchester United, de racisme. Ce n'est pas seulement une personne qui a été condamnée, mais notre culture, notre mode de vie, c'est discriminatoire et raciste, a déclaré le syndicat. L'international uruguayen de 33 ans a été suspendu pour 3 rencontres après avoir écrit « Gracias Negrito », entendez « Merci Petit Noir ». En réponse au message d'un ami le félicitant pour son doublé décisif face à Southampton 3-2, le 29 novembre, l'Uruguayen dit avoir utilisé l'expression dans un sens affectif. Ici aux États-Unis, la March Madness, la phase finale du championnat universitaire de basket, se déroulera en mars-avril prochain dans plusieurs bulles créées dans l'Indiana, a annoncé son organe central l'an passé. Cet événement a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La majorité des 67 matchs au programme se dérouleront à Indianapolis, dans les salles de plusieurs universités au sein de la ville, mais également à West Lafayette et Bloomington. Le tournoi débutera le 16 mars avec pour épilogue un Final Four se déroulant du 3 au 5 avril à Indianapolis.
Claire Morin-Gibourg avec vous. À votre avis, votre émission débat à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, sera consacrée mercredi à la situation au Niger. Le deuxième tour de l'élection présidentielle aura lieu alors qu'une attaque a fait une centaine de morts dans l'Ouest le week-end dernier. Un des pires massacres de civils dans ce pays. Comme le Mali et le Burkina Faso, le Niger subit plusieurs attaques terroristes qui ont fait des milliers de morts et de déplacés. Que faire et comment enrayer la montée de l'islamisme radical dans le Sahel? Laissez-nous vos réactions, commentaires et coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion, toujours en votre compagnie. À présent, le dossier du jour. Présidentiel au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est arrivé en tête du premier tour avec 39%, suivi de Mahamane Ousmane qui obtient 17% des suffrages. Le coup KO promis par les partisans de M. Bazoum ne s'est donc pas produit. Les deux candidats seront donc départagés en février prochain lors d'un second tour. Pour analyser ces résultats et le processus électoral, notre correspondant au Niger a interrogé le journaliste analyste politique Moussa Nagano, directeur de publication du journal Le Patriote à Niamey.
Il va falloir d'abord dire un mot sur le processus ayant conduit à ces résultats. Je pense qu'il y a eu un bon acquis du fait que le chef de l'État sortant, Issou Mamadou, a promis déjà de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est un acquis. Et autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut déplorer un peu le comportement de l'opposition qui ne s'est pas beaucoup mobilisée pour réaliser l'alternance politique et démocratique, surtout promis par le chef de l'État. Parce que pendant ce temps, vous avez remarqué qu'au Niger, l'opposition s'est manifestée par un refus de prendre part au débat, un refus de prendre part aux travaux du Conseil national de dialogue politique, un refus d'occuper ses places au sein des institutions électorales comme la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de la campagne, maintenant, elle a été marquée par une focalisation un peu du débat politique sur un candidat, sur un adversaire, en l'occurrence Bazoum Mohamed, le candidat de la majorité au pouvoir du PNDS Taria. Les résultats que nous avons, surtout par rapport aux législatives, montrent une sorte de déferlante rose au niveau du Parlement. Le coup KO tant chanté a été quand même réalisé au niveau des législatives, même si au niveau de la présidentielle, ça n'a pas été le cas, mais 39%, c'est quand même beaucoup, et ça montre aussi l'échec du coup KO, c'est-à-dire l'élection d'un candidat dès le premier tour, montre que les bases sociologiques, politiques des partis politiques ne sont pas encore totalement démantelées. Il y a la notion de fief des partis politiques. Ils tiennent beaucoup, chaque parti a son fief, et ces fiefs-là ne sont pas démantelés, malgré tout ce qu'on dit par rapport au débauchage, à la fraude, au nomadisme politique. La suite, ce qui est sûr, la campagne risque d'être marquée, non pas par l'étalage d'un marché des idées, mais sur la base des idées très basses, notamment sur l'origine de Bazoum, qui a d'ailleurs marqué la première campagne législative, le premier tour de la présidentielle.
Moussa Nagano, directeur de publication du journal Le Patriote, au micro d'Abdoul Razak Idrissa.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, zoom sur le Niger qui a vécu une élection historique le 27 décembre. Les résultats ont débouché sur un second tour prévu le 21 février entre le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'ex-président et opposant Mahamane Ousmane. L'élection doit marquer un transfert pacifique du pouvoir et le départ du sortant Mamadou Issoufou. Mais l'attaque meurtrière qui a fait une centaine de morts dans la région de Tillaberi le 1er janvier vient rappeler l'énorme défi sécuritaire qui attend le prochain président. Rendez-vous ce jeudi 7 janvier 2021 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Comme le sujet est la tradition, de nombreux chefs d'État à travers le monde se sont adressés à leurs concitoyens à la faveur de la nouvelle année. En Côte d'Ivoire, le président nouvellement réélu, Alassane Ouattara, a livré un message dans lequel il dresse le bilan de l'année écoulée et donne les perspectives pour 2021. Les habitants de Boaké ont réagi à la suite de ce discours. Écoutons-les, ils sont au micro de notre correspondant Séri Kibarou.
Diané Mori, habitant de Boaké. Franchement, c'est un discours qui a été bien lu. Le discours, nous avons beaucoup apprécié. Franchement, nous demandons au bon Dieu tout ce qui a été dit par le président, que ce soit un vœu pour la nation, qu'il puisse continuer, n'est-ce pas, le travail qui a commencé, qu'on s'entend avec nos frères qu'on s'entend avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire.
Camara Malika, je pense que le discours du président a été un discours positif. Il a posé pas mal d'actions en faveur de la décrispation et de l'apaisement de la situation sociopolitique. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce que en dépit de tous ces prisonniers qu'il a libérés, il y en a beaucoup encore dans les cellules de prison. Il y a de nombreux fils du pays qui sont en exil, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, Blaise Goudé et autres. Je pense que s'il continue à jouer la carte de la réconciliation, il serait préférable de permettre à toutes ces personnes-là de revenir au pays et de libérer tous ces opposants qui croupissent en prison. Je pense qu'en posant ces actions-là, il aura fait beaucoup et ça sera pour le bonheur de tous les Ivoiriens.
Amara Camara, le discours de président, franchement, j'ai vu qu'il veut réunir les Ivoiriens. Son discours nous montre ça et il veut essayer de terminer ses projets qu'il a commencé. Moi, ce que je souhaite, ici à Boaké, je vois qu'un peu, bon, il travaille, mais il a un peu oublié Boaké, notamment notre marché, avec les usines qu'il doit renouveler. Franchement, il n'a qu'à penser beaucoup à Boaké, parce qu'il reste beaucoup à faire.
Mariam Koulibaly, du discours du président, en tout cas, nous avons aimé, au fait, les promesses qu'il a faites. Mais selon nous, au fait, il doit revoir encore, au fait, la situation de vie, quoi. Surtout au niveau des femmes de Boaké ici, c'est un peu difficile pour nous. Selon ce qu'on vit actuellement, en tout cas, c'est un peu difficile. On prie Dieu pour que la situation change. Il n'a qu'à essayer d'améliorer les choses.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, le CREPAT, le Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, a procédé à la présentation des résultats de ces recherches qui ont abouti à la mise en place de Dubase C, un médicament antiviral qui est censé soigner le COVID-19 en plus ou moins 48 heures selon les chercheurs. Notre correspondant à Kinshasa, Yamba Valdo, nous en dit plus.
Le Dubase C est le résultat des 33 ans de recherche du Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique mené en 3 étapes dans 3 pays différents, à savoir la RDC, les États-Unis et l'Afrique du Sud, homologué il y a 3 ans pour les traitements de VIH, dont la similitude a poussé les recherches à la lutte contre la COVID-19. C'est un produit à base des plantes médicinales congolaises. Constantin Bachengezi en est l'inventeur.
Dubase C, c'est un médicament à base de plantes médicinales qu'on trouve au Congo. Il est fait de 2 extraits dérivés de 2 plantes, et chaque extrait a un rôle particulier qui joue contre les virus, puisque Dubase C est réputé un antiviral à large spectre, donc un antiviral général.
Dubase C est donc le produit de la richesse de la biodiversité congolaise qui ne peut que satisfaire les autorités de la RDC, Claude Niamugabo et les ministres de l'Environnement.
Ces médicaments sont produits sur base de nos produits végétaux congolais. Ils ont dit qu'il y a des produits qui n'existent qu'en République démocratique du Congo. Et donc moi, en tant que ministre de l'Environnement, je voudrais rassurer nos chercheurs que nous allons tout mettre en œuvre pour les protéger et protéger également ces produits qui n'existent qu'en République démocratique du Congo.
Les traitements administrés aux différents patients ont étalé l'efficacité des Dubase C dans sa capacité à faire disparaître les symptômes de la COVID-19 selon les pharmaciens. Constantin Bachengezi.
Avec Dubase C, les symptômes, les signes qui accompagnent la maladie disparaissent en l'espace de 24 à 48 heures. Ce qui fait que avec Dubase C, il n'y a pas de raison de maintenir les malades dans l'hôpital pendant 2 semaines. On déchargerait les hôpitaux. Les hôpitaux ne seraient pas surchargés de malades. En l'espace de 24 heures, 48 heures, les symptômes tombent.
Ces chercheurs congolais avancent qu'entre 3 à 5 jours, la sérologie du patient revient négatif et ce dernier peut reprendre ses activités socio-professionnelles. Pour Lami Nzunzu, José, doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa et conseiller du chef de l'État au collège éducation et recherche scientifique, Dubase C représente
les sciences pharmaceutiques au service de la société, de l'humanité. Les pharmaciens au service de la société, de l'humanité. Et en tant que pharmacien, je suis fier de ce travail scientifique qui a trouvé toutes les évidences pour pour la guérison de maladies antivirales, dont notamment la COVID-19.
Pour des raisons bien évidentes, les centres de recherche CREPAT proposent le Dubase-C pour un usage hospitalier, explique le pharmacien Bachengezi.
Étant donné que nous sommes face à une infection aiguë, nous évitons que les malades ne puissent manipuler les produits de manière maladroite. C'est ainsi que nous les proposons pour un usage hospitalier. Et nous évitons l'automédication.
Pour les traitements de la COVID-19, une petite boîte comprenant 45 comprimés de Dubase-C est proposée par les centres de recherche CREPAT. À ce jour, la RDC compte 18 101 cas de COVID-19, dont 14 716 guéris et 596 décès. De Kinshasa, Valdo Simoyamba pour VOA Afrique.
Le Zimbabwe a réintroduit un couvre-feu du crépuscule à l'aube pour contenir l'augmentation des cas de COVID-19 et lutter contre le non-respect par les citoyens des mesures barrières. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle les Zimbabwéens à respecter les nouvelles règles. Les experts en santé publique et les commerçants du secteur informel sont préoccupés par ces restrictions. Reportage de Columbus Mavunga à Harare, récit Eric Manirakis.
En annonçant le couvre-feu de 12h samedi soir à la télévision nationale, le vice-président Constantino Chiwenga a déclaré que le gouvernement était préoccupé par l'aggravation de la pandémie de coronavirus au Zimbabwe.
We have seen the number of COVID-19 cases and deaths almost double in 2 months.
Nous avons vu une augmentation des cas et des décès de COVID-19, presque le double en 2 mois, passant de 8374 le 1er novembre à 14084 à ce jour. À la lumière de la récente flambée des cas, les mesures de verrouillage strictes suivantes sont mises en place avec effet immédiat.
Outre le couvre-feu, les autorités ont aussi instauré une limitation à 30 du nombre de personnes prenant part aux funérailles, tandis que tous les autres rassemblements lors de mariages et dans les églises, bars, magasins de liqueurs, gymnases et restaurants sont interdits. Chiwenga, qui est aussi ministre de la Santé, promet un examen de ces nouvelles mesures dans 30 jours. Les acteurs du secteur informel de l'économie sont plutôt pessimistes quant à l'efficacité de ces mesures. Sam Wadzai dirige un groupe de vendeurs pour la transformation économique au Zimbabwe.
Il est clair que le gouvernement n'a pas tiré les leçons du premier verrouillage où en mars 2020, il avait annoncé l'existence d'un fonds d'amortissement qui n'a pas profité à la majorité des commerçants du secteur informel. Dans les rares cas où les vendeurs du secteur informel recevaient ces allocations, la valeur avait beaucoup chuté à cause de l'inflation. Des mesures de verrouillage devraient être mises en œuvre parallèlement à l'introduction du régime de protection sociale approprié pour protéger les personnes vulnérables de notre société. Sinon, il sera très, très difficile que ces mesures soient respectées.
Le docteur Pamela Magande, présidente de l'Association des médecins du secteur public du Zimbabwe, affirmait que ces verrouillages devraient être accompagnés d'équipements modernes des hôpitaux avec des médicaments.
Il est en fait difficile de travailler dans les hôpitaux, car il n'y a rien avec quoi travailler. Tout le monde doit être amené à la table parce que le cantonnement à lui seul ne fait que retarder l'inévitable. Nous sortirons du cantonnement et nous aurons à nouveau des contaminations et nous reviendrons à la case départ.
Le docteur Alex Gasasira dirige le bureau de l'OMS au Zimbabwe. Il estime que les citoyens doivent adopter ces nouvelles mesures afin que le pays puisse contenir la propagation du virus.
If we as individuals play our role,
si nous, en tant qu'individus, jouons notre rôle à notre niveau individuel, dans nos foyers, dans nos communautés, cela complétera les mesures que le gouvernement a mises en place et permettra d'atteindre l'objectif de réduction de la transmission en peu de temps. Achieved
in Zimbabwe in a short time.
Selon lui, l'hygiène personnelle, le port du masque facial et la distance sociale sont quelques-unes des mesures que les Zimbabwéens peuvent mettre en œuvre pour la réussite des nouvelles initiatives. Par ailleurs, la police zimbabwéenne a annoncé l'arrestation de plus de 2000 personnes pendant le week-end du Nouvel An pour avoir bafoué les règles imposées depuis le mois de mars dans tout le pays.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Rouge de Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.